Chapitre 5 Le triomphe de Coquardo. Monsieur Lepic errait comme une âme en peine sur la plage du golfe de la Girolata. Monsieur Lepic était désolé. Il y avait bien de quoi. Du jour où les fiançailles de Goël Mordax et d'Eda Ström avaient été convenues, Mademoiselle Segui avait cessé de taquiner le naïf naturaliste et de s'occuper de lui. Les journées paraissaient longues à M. Lepic. Quelquefois, quand, penché sur son nid de chalicodum, il suivait avec une inlassable patience les évolutions de l'insecte, il lui semblait entendre rire derrière lui. Brusquement, il se retournait, mais il n'y avait personne. Seulement, sur la pointe d'une roche, une mouette rieuse, Larus garulans, le cou tendu faisait retentir son ironique ricanement. Monsieur Lepic n'avait plus de goût au travail. Il promenait sa mélancolie par les sentiers, tout en se livrant à des remarques peu flatteuses pour la plus belle moitié du genre humain. Un jour, il fut tiré de ses réflexions par un brusque choc. Marchant la tête baissée et sa boîte verte rejetée derrière le dos, il venait de se jeter étourdiment sur M. de Noirtier, le capitaine du yacht l'Étoile polaire. M. de Noirtier était un homme d'une cinquantaine d'années, ancien officier de marine, sans fortune, retraité avant l'âge à cause de ses nombreuses blessures. Il avait été très heureux d'accepter le commandement de l'Étoile polaire que lui offrait Oselström. Il aimait la mer avec passion et n'était jamais plus heureux que sur le pont d'un navire. « Eh bien, monsieur Lepic, dit-il en retenant le naturaliste qui trébuchait, vous ne me voyez pas ?»« Oh, pardon, capitaine, fit monsieur Lepic en rétablissant l'équilibre de ses lunettes, j'étais si absorbé. »« Mais vous êtes tout excusé, mon cher monsieur, mais dites-moi, que pensez-vous du Jules Verne ?» Merveilleux appareil, capitaine, archi-merveilleux. Grâce au Jules Verne, je vais pouvoir étudier des visu la faune sous-marine. J'explore d'abord la Méditerranée, puis l'Atlantique, puis l'océan Indien. Je jette un coup d'œil rapide sur les mers arctiques et antarctiques. J'explore le Maelstrom, puis je reviens à Paris. Je fais paraître un mémoire et je suis nommé membre de l'Académie des sciences et professeur au Collège de France. Voilà. Eh bien, et vos amis ? Oh, je les emmène avec moi, c'est tout naturel. Monsieur de Noirtier sourit. Et montant la coupole du sous-marin qui émergeait au milieu de la baie et scintillait au rayon du soleil. Fort bien, dit-il, mais je vous demande ce que vous pensez de Jules Verne au point de vue technique. Monsieur Lepic regarda le capitaine d'un air effaré. « Oh, je ne suis ni marin, ni ingénieur, » répondit-il. « Mais je vous certifie que le sous-marin fonctionne à merveille, puisque c'est Goël qui l'a construit. » M. de Noirtier dut se contenter de cette affirmation. M. Lepic venait d'apercevoir Mademoiselle Segui et se dirigeait vers elle avec empressement. « Voyons, M. Lepic, vous n'allez pas venir déjeuner avec tout cet attirail ?» dit la jeune fille en frappant du bout de son ombrelle la fameuse boîte verte. « Comment, je ne suis pas bien comme cela ?»« Mais vous êtes tout simplement affreux, alors. Allez-vous vêtir convenablement, je ne vous parle jamais plus. »« Fille, venir avec un pareil accoutrement à un déjeuner de fiançailles, à un repas solennel. » Monsieur Lepic était heureux. Il s'éloigna à grandes enjambées en exécutant un superbe moulinet autour de sa tête avec son filet à papillons. Sur la plage, on avait dressé une vaste tente décorée de feuillages et recouvrant une table en fer à cheval, sur laquelle les fleurs, répandues en profusion, mêlaient leurs nuances gaies au scintillement des cristaux et de l'argenterie. Oselström avait voulu donner beaucoup d'éclat à la célébration des fiançailles de Goël et d'Enda. Il devait licencier le jour même la plus grande partie des ouvriers. Mais avant de les congédier, Il tenait à les remercier du concours qu'ils avaient apporté à la construction du sous-marin. Dans la baie, le Jules Verne, solidement amarré sur ses ancres, ne laissait voir qu'une partie de sa coupole, décorée pour la circonstance de guirlandes de chênes et de myrtes, au milieu desquelles tranchaient les vives couleurs des pavillons de toutes les nations. Ursel Ström n'avait pas oublié que les ingénieurs du monde entier avaient répondu à son appel, et il entendait affirmer hautement le caractère universel de son humanitaire entreprise. L'heure du repas était enfin venue. Au moment où Edda Ström allait prendre place, un groupe d'ouvriers, conduit par Robert Knipp et Pierre Auger, principal chef de chantier et homme de confiance de Sundström, s'approcha d'elle et lui offrit un magnifique bouquet de fleurs sauvages. Robert Knipp remit le bouquet à la jeune fille et la félicita au nom de ses camarades. Edda remercia par quelques paroles très simples et serra affectueusement la main du contremaître et de son compagnon. Monsieur Lepic vint aussitôt complimenter la jeune fille et son ami Gaël. Comme il allait gagner sa place, Mademoiselle Segui l'arrêta. Mais vous croyez que je vais m'asseoir à côté de vous ? Fagotée comme vous l'êtes, dit-elle. Mais qu'est-ce que c'est que ce nœud de cravate ? Monsieur Lepic rougit. Il avait passé près d'une heure à sa toilette et se croyait mis avec une correction impeccable. Mais l'œil de la malicieuse Hélène avait saisi de suite le côté défectueux de son accoutrement. « Venez ici, » fit Hélène avec autorité. « Bien que cela ne soit guère correct de ma part, je vais vous recravater. » Monsieur Lepic, confus, tendit le cou avec résignation. « Ah, bon, bien, voilà enfin présentable. Maintenant, offrez-moi votre bras et à table. » Ursel Ström avait à sa gauche sa fille et Goël Mordax. À sa droite, Mademoiselle Segui et Monsieur Lepic. En face de ce dernier, Coquardo, dit Canteloup, avait pris place. Il donnait des ordres à toute une armée de gars de sauce, de rôtisseurs et de pâtissiers, et violant les principes les plus élémentaires de l'étiquette, il quittait à tout moment sa place pour aller surveiller ses fourneaux. Ursel Ström éprouvait un plaisir véritable à voir autour de lui ces rudes et énergiques ouvriers, aux gestes maladroits, émerveillés du luxe inouï qui les entourait. Et il s'amusait fort de leurs mines effarées. Le repas fut très gai. Quant au menu, il était tout simplement fantastique. Macaroni au parmesan et polenta, rosbif saignant escorté de pickles à la moutarde et de sauce épicée, anchois, caviar, bouillabaisse, olla podrida, choucroute, le tout supérieurement préparé sous la direction de Cantalou, se succédait sans relâche sur la table et disparaissait avec une rapidité qui tenait du prodige. Le déjeuner avait commencé par une excellente soupe au nid d'hirondelle. En la présentant, Coquardo fit valoir ses connaissances littéraires en citant le proverbe chinois qui célèbre ce potage si renommé. Si l'esprit de la vie, si l'âme immortelle quittait le corps d'un homme, l'odeur seule de ce mets divin le ferait revenir sur terre, sachant bien que le paradis ne peut s'offrir de délices qui soient comparables à cette merveilleuse nourriture. Des applaudissements éclatèrent de toutes parts. Encouragé par ce premier succès, Cantalou expliqua comment on préparait la soupe au nid d'hirondelle. Mais cette fois, son discours ne fut qu'une simple recette de cuisine. Faites fondre les nids jusqu'à ce qu'ils aient pris l'aspect d'une gelée brune. Ajoutez à cette gelée des nerfs de daim, des pieds de porc, les nageoires d'un jeune requin, des œufs de pluvier, du mari, de la cannelle et du poivre rouge. Et faites cuire sur un feu doux et à servir chaud. Pendant que Cantalou parlait, M. Lepic avait absorbé son potage et bravement il tendit son assiette en disant « Il n'y en a plus ?» Une tempête de rire accueillit la demande de M. Lepic. Mademoiselle Séguy prit sa mine la plus sévère. « Voyons, M. Lepic, vous n'êtes plus un enfant. C'est fort inconvenant, monsieur, de redemander d'un plat en tendant ainsi son assiette. » « Oh, c'est inconvenant ? Oh, ben, c'est fort regrettable. Quant à vous, mon ami, dit-il en se tournant vers l'artiste culinaire, votre potage est excellent. Vous m'en garderez un peu pour ce soir. » Les rires redoublèrent à cette nouvelle sortie de M. Lepic, et Mlle Séguy lui dit gravement, « Ah, M. Lepic, si vous prononcez encore un mot, je vous prive de dessert. » Monsieur Lepic baissa le nez sur son assiette et n'ouvrit la bouche que pour manger. Edda et Goël semblaient ne pas voir ce qui se passait autour d'eux. Ils s'entendaient à mi-voix, bâtissant mille projets pour l'avenir. C'est à peine s'ils faisaient honneur aux merveilles culinaires de Cantalou qui les pressaient à tout moment. « Allô, mademoiselle Edda, allô, monsieur Goël, dégustez-moi ce hérisson farci. » Puis dans une boule de glaise, à la mode bohémienne. Mais le brave Cantalou en était pour ses frais d'éloquence. Pour faire couler cette abondance de nourriture, pour éteindre le feu des épices, on buvait ferme dans le clan des ouvriers. Et quel vin ! Jamais il n'en avait bu de pareil. Aussi s'en donnait-il à cœur joie. Seul le contremaître Robert Knipp, toujours taciturne, ne buvait que de l'eau. On ne put le décider à prendre même un peu de champagne. Purselström admirait la sobriété du contremaître. Les ouvriers moins philosophes se moquaient de Robert Knipp, qui restait impassible sous le feu de leur raillerie. Un étrange sourire errait sur ses lèvres minces. Vers la fin du repas, Ursenström se leva et réclama le silence. « Mes amis, dit-il, je serai bref. Il va falloir nous séparer. Mais avant de vous quitter, peut-être pour toujours, je tiens à vous remercier de l'aide que vous m'avez apportée. Grâce à vous, le Jules Verne a été rapidement construit et va pouvoir se lancer à la conquête des régions sous-marines. Je remercie en vous, non de simples salariés, mais de véritables collaborateurs. » Un tonnerre d'applaudissements couvrit les dernières paroles d'Ursenström. Mais le délire fut à son comble quand un de ses ouvriers, ayant déplié la fine serviette à dessert sur laquelle était posée sa tasse, en fit tomber 10 billets de 1 000 francs. Chaque ouvrier en avait autant. Et maintenant, debout, brandissant les papiers bleus au bout de leurs mains robustes, ils criaient à gorge déployée « Vive Ursenström ! Hourra, hippipi, pourra ! Vive Goël-Mordax !» On ne s'entendait plus. Edda Ström ne savait comment échapper à ce débordement d'enthousiasme. Toute la journée, les échos du golfe retentirent des cris de joie et des chants des ouvriers. Ursenström et ses amis étaient descendus dans le Jules Verne, dont l'aménagement intérieur n'était pas encore tout à fait terminé. Il avait été décidé que Goël et Edda, accompagnés d'Ursenström, de M. Lepic et de Mlle Séguy, entreprendraient une croisière d'une quinzaine à bord de l'étoile polaire, pendant que les tapissiers et les ébénistes, sous la surveillance du chef de chantier Pierre Auger, procéderaient à la dernière toilette du sous-marin. Le lendemain, tous les ouvriers licenciés devaient quitter les baraquements qu'ils avaient occupés pendant la durée des travaux et s'embarquer à la première heure pour regagner le continent. La visite du sous-marin terminée, on regagna la rive. La nuit tombait, les étoiles s'allumaient déjà dans le ciel, La plage était maintenant silencieuse et déserte. Les ouvriers avaient regagné leur campement. Monsieur Lepic et Mademoiselle Segui marchaient devant leurs amis. Tout l'après-midi, la jeune fille n'avait cessé de taquiner le savant qui ne s'était jamais trouvé si heureux. Ils devisaient joyeusement lorsque leur attention fut attirée par des ronflements sonores. « Oh, c'est sans doute quelques victimes des grands crus d'Ursenstrom, » dit Mademoiselle Segui. « Ça doit être un brave homme qui est dans les vignes du Seigneur. » Oh, sûrement, oui, mais il ne peut pas passer la nuit en plein air, répondit Monsieur Lepic. Mais où est-il donc? Par là. Et Monsieur Lepic se dirigea vers le fourré de lentisque d'où provenaient les ronflements. Mais il n'avait pas fait trois pas qu'il trébuchait et s'étendait de tout son long. Mais à qui a-t-il? Demanda Hélène en brimant une violente envie de rire. Ben, il y a que ce diable d'ivrogne m'a fait tomber. Tout en parlant, M. Lepic se relevait et regardait la face de l'ivrogne. « Par exemple !» s'écria-t-il. « Oh, c'est un comble! Oh, c'est trop fort! Venez tous !» Mademoiselle Segui le rejoignit, suivie d'Ursenstrom, d'Edda, de Goël et du capitaine de Moirtier. « Mais voyez-vous-même » leur dit-il. Tous se penchèrent et ne purent retenir une exclamation d'étonnement. À leurs pieds, Robert Knipp, l'homme du régime sec, l'abstinent Robert Knipp, le buveur de thé, gisait ivre mort et ronflait à poing fermé. Auprès de lui, il y avait un flacon vide. C'était un carrefour d'alcool que Robert Knipp, le modèle des hommes sobres, avait sournoisement dérobé à la fin du repas.